Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir.
Bienvenue sur le Canu Info du lundi soir. À l'international, nous commencerons par une interview sur la situation en Italie, puis nous nous intéresserons aux bidonvilles de Guayaquil en Équateur, avant de nous pencher sur une semaine de manifestation des ouvrières du textile au Bangladesh et à Bombay. Ensuite, on fera un point sur les incendies ravageurs qui ont lieu à Tchernobyl. S'ensuivra une deuxième interview sur la situation en Colombie, et pour conclure, nous parlerons des émeutes de la faim en Afrique du Sud.
Au national, on commencera par parler des révoltes dans les centres de rétention administrative de Vincennes, du Ménilamlo et de Loisel. On continuera avec une lecture de la lettre ouverte de réfugiés érythréens à Calais. Ensuite, on parlera des salariés de la dernière usine de bouteilles d'oxygène en Europe qui sont en lutte pour sa réouverture. On continuera avec le plan de 100 milliards pour les entreprises, un beau cadeau de confinement. Puis, on aura une petite interview d'un pizzaïolo indépendant. Ensuite, on parlera de la suspension d'un inspecteur du travail, du grand n'importe quoi sur les écoles et d'un policier qui a tiré sur son voisin en Seine-Saint-Denis. Pour finir, on parlera des étudiants infirmiers qui sont mis à disposition pour 1 euro de l'heure.
Et pour terminer au local, on vous parlera d'abord de la tribune du collège Maurice Sève pour réclamer la régularisation de tous les sans-papiers en France. Et enfin, on vous parlera de comment la caisse de grève de l'AG féministe de Lyon s'est transformée en caisse de solidarité pour les femmes précaires.
Et commençons à l'international avec une interview sur la situation en Lombardie, en Italie.
Est-ce que tu peux me présenter un peu la situation en Italie ? Comme vous l'avez vécu et ce que vous avez constaté?
Oui, alors donc la situation en Italie s'est beaucoup différenciée par rapport aux régions. C'est-à-dire que le nord, c'est la partie d'Italie qui a été plus touchée par rapport au virus. Et donc le gouvernement avait alerté les régions, etc. Ils n'ont rien fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que la plupart des cas graves, etc., sont arrivés dans les maisons des retraités. Là, c'est grave parce qu'ils ont essayé de soutenir les coûts qui arrivaient sur les hôpitaux publics. Déjà, la Lombardie, elle avait décidé par un modèle de santé privatisée. Et là, elle a bien montré n'être pas capable de faire face à la situation. Ce qui se passe à présent, c'est-à-dire que maintenant, ils ont décidé de tout ouvrir à partir du début du mois de mai. Les autres régions ont déclaré, surtout le sud, ça c'est énorme, de tout bloquer par rapport au nord. Mais de plus, qu'est-ce qu'il y a? Qu'au niveau du territoire, nous sommes en train de nous organiser. On a essayé de faire un peu face avec des organisations, des centres sociaux, les centri sociali en italien, qui vont s'occuper des dispositifs, des masques, et même aussi au niveau de la nourriture. Hein. La pauvreté commence à être hyper importante ici dès que la Lombardie est une des régions parmi les plus riches d'Europe. Et c'est vrai qu'il y a une différence énorme entre la mairie de Milan et les autres mairies de la Lombardie, parce que là, c'est une question des entreprises, de l'industrie qui a envie de tout reprendre. Même si on n'est pas sûr d'avoir tous les dispositifs pour la sûreté des travailleurs. Et donc, voilà, ça fait 40 ans de gouvernement de la droite et surtout de la Lega Nord, qui est devenue la Lega, qui mène une politique nationaliste, localiste et pire que ça. Mais c'est à eux la responsabilité de n'avoir pas faire face, ni moi, aux alertes qui venaient même du gouvernement. C'est-à-dire que l'épidémie ici a été déjà signalée au mois de janvier. Puis les premiers cas, bien sûr, c'est fin février. Puis ils ont décidé de gérer la chose d'une façon grave. Et là, à mon avis, l'article de Agamben, qui a suscité pas mal de polémiques, touche pas mal de questions qui sont importantes. Comment on peut renoncer à notre droit aux affects, aux parents, à l'affectivité, aux liens sociaux, à la liberté, face à une gestion de l'épidémie, qui est une gestion qui sont des corps productifs. Et s'ils deviennent des corps malades, des corps âgés, des corps marginaux, ils sont des corps écartés. Là, c'est posé d'une façon hyper violente, cette question.
Et du coup, comment est-ce que tu analyses un peu les conséquences politiques immédiates en Italie, à ton avis, de l'après-confinement?
Alors là, c'est difficile parce qu'on a des réactions très différenciées. C'est-à-dire qu'on a pas mal de soutien au niveau social qui s'organise, des réseaux qui viennent surtout de la gauche libertaire, anarchique, qui travaillent sur le terrain, hein, sans rien dire. Puis il y a aussi les réseaux catholiques. On est dans le changement, dans la vague du changement, mais on n'a pas encore la conscience vraiment à quel point nous, on est en train de changer. C'est-à-dire que le smart working, pour les stratégies de contrôle, même par rapport à l'épidémie, peuvent devenir des stratégies de contrôle qui deviennent ordinaires à partir des années 70, mieux, des années 80, les centres sociaux sont devenus un peu les points dans lesquels on a mené de la politique critique. Là, ils ont vraiment travaillé sur le territoire, c'est ça. Ce que la gauche traditionnelle, la gauche officielle, avait oublié. C'est tellement bizarre parce que, si tu veux, les partis comme la Lega, de Salvini, et il a toujours tenu un rapport avec le territoire. Mais la gauche traditionnelle, non. Hier, je suis allé regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau de... Donc, on fait ça. On est sur le terrain maintenant. Ça va être un passage grave au niveau de l'économie où les sacrifiés sont toujours les mêmes.
On continue à l'international avec un sujet sur la situation en Équateur.
Oui, cet automne, l'Équateur avait connu un mouvement social extrêmement important hein, contre les mesures d'austérité imposées par le président Lénine Moreno et le FMI. Le FMI qui avait prêté au pays 4,2 milliards de dollars pour mettre fin à la récession. On en avait parlé un petit peu ici. La radicalité et les nombreux affrontements qui ont accompagné ce mouvement étaient inédits en Équateur. En cause, les politiques libérales des gouvernements successifs et l'extrême pauvreté d'une importante partie de la population équatorienne. Comme en France pour les Gilets jaunes, un des principaux déclencheurs du mouvement avait été l'augmentation du prix de l'essence. Aujourd'hui, ces politiques antisociales deviennent meurtrières pour une partie de la population équatorienne. Avec 3747 cas vendredi, l'Équateur est le pays d'Amérique latine le plus touché proportionnellement au nombre total de sa population. Les patients infectés sont la plupart du temps renvoyés chez eux faute de lits disponibles. À Guayaquil, la ville qui dénombre la majorité des cas, le bidonville de Nigeria est particulièrement touché par la pandémie. Les effets du virus sont désastreux et la contamination largement augmentée par l'insalubrité des logements et le nombre de ses occupants. La promiscuité des lieux rend impossible le respect des gestes barrières. Des cadavres jonchent littéralement les rues et les maisons d'habitants puisque les services funéraires et de santé sont arrivés à saturation. Pour donner un morbide exemple, entre le 23 et le 30 mars, la police nationale déclare avoir récupéré 300 corps dans les rues de la ville. On imagine l'ampleur du problème au regard de ce chiffre officiel, probablement très en deçà de la réalité. Faute de cercueils en bois, des cercueils en carton comprimé sont utilisés et certains habitants expliquent avoir dû verser de la chaux vive sur les cadavres de leurs proches pour ralentir le processus de décomposition. De nombreuses images et témoignages font état de cette situation dramatique sans qu'aucune mesure réellement efficace soit mise en place pour enrayer cette catastrophe sanitaire et humanitaire. Dans ces quartiers, l'emploi informel est majoritaire, les moyens de subsistance sont donc désormais inexistants. Et le vice-président Otto Sonnenholzer les a particulièrement ciblés en disant, je le cite, « S'ils ne coopèrent pas, nous devons décider de qui vivra ou mourra ». Un couvre-feu a été décrété dès 14h, donc les militaires patrouillent en permanence. Des vidéos montrent leurs nombreuses exactions, hein, on peut même les voir fouetter des gens en pleine rue. Alors le choix est simple hein, pour les habitants de ces quartiers, crever de faim, se faire buter par la police ou mourir du coronavirus. Alors malgré cette situation insupportable, l'Équateur continue de payer sa dette au FMI. Le mois prochain, ils doivent rembourser 1200 millions de dollars, soit plus de 10 fois le budget de la santé. Pour enrayer la crise, cette dette doit immédiatement être annulée. Cet argent doit être utilisé pour lutter contre la pandémie et les conséquences économiques désastreuses pour les plus pauvres. Partout dans le monde, les dettes doivent être annulées. Cette mesure immédiate peut sauver des milliers de vies. Plus que jamais, solidarité internationale, ne laissons pas leur politique de mort assassiner notre classe partout dans le monde.
On va maintenant parler de manifestations d'ouvrières du textile au Bangladesh.
Oui, on vient de le voir, le confinement est clairement plus facile pour certains que pour d'autres, que ce soit en France ou à l'étranger. Si la pandémie actuelle doit nous rappeler quelque chose, c'est bien qu'accepter de vivre selon les lois du libéralisme, c'est accepter que ceux qui n'ont pas de travail crèvent, et partout actuellement, il y a des gens qui sont désespérés par la fermeture de leurs moyens de subsistance. C'est le cas par exemple en Inde, où à Bombay, des millions de travailleurs journaliers se sont trouvés piégés par le confinement généralisé du pays le 23 mars. Pour eux, c'est plus de travail et donc plus de salaire du jour au lendemain. Et aussi, plus aucun transport, donc pas de moyen de rentrer chez eux, à plusieurs centaines de kilomètres de Bombay, et donc de pouvoir survivre avec les moyens de subsistance de leur famille chez eux. Dès le début du confinement, certains se sont mis à entreprendre le trajet à pied, seule alternative pour beaucoup au fait de mourir de faim sur place. Il serait des dizaines de milliers à avoir choisi cette option qui consiste tout de même à avoir faim tout le long d'un trajet de plusieurs jours. Initialement, le déconfinement était prévu pour le 14 avril, et il était très attendu par ceux sur place. Finalement, le confinement a été reconduit jusqu'au 3 mai. Cette nouvelle annonce, au dernier moment, a poussé plus d'un millier de travailleurs au chômage forcé, dans l'impossibilité de se nourrir, voire de se loger depuis 3 semaines, à se rassembler et à se rendre à la gare où ils ont crié leur désespoir et exigé des trains. Ils n'ont absolument rien obtenu et la seule réponse reçue a été d'être dispersés à coups de bâton, sous prétexte que le rassemblement était incontrôlable et faisait fi des distanciations sociales. Alors que les manifestants criaient « Ce n'est pas le virus qui va nous tuer, c'est la faim ». Le chef du gouvernement régional a ouvert une enquête, tenez-vous bien, pour trouver les responsables du rassemblement, peut-être lancé sur WhatsApp. Comme si le crime, c'était de ne pas accepter de crever en silence et pas de laisser les gens crever. Autre pays, autre exemple, au Bangladesh, où les usines de la fast fashion ont fermé leurs portes par manque de commandes, sans qu'on se soucie du devenir de celles qui y triment habituellement. À Dhaka, ce sont des milliers d'ouvrières du textile qui ont manifesté toute la semaine pour réclamer le paiement de leur salaire suspendu. Lundi et jeudi dernier, elles ont occupé les routes menant à la capitale pour en bloquer l'accès. Elles se retrouvent en effet elles aussi sans aucune ressource du jour au lendemain, alors que sur leur dos s'engraissent H&M, Primark, CEA, Gap et bien d'autres enseignes de prêt-à-porter. Celles-ci n'ont pas hésité à suspendre leur paiement aux usines où elles passent commande, et ce même si leur commande était déjà en cours de confection. Une minorité a annoncé qu'elle paierait leur commande, mais sans donner de date pour ce paiement. En bref, que ce soit les usines ou les marques de fringues, il n'est pas question de réduire un peu les profits pour éviter que les ouvrières ne meurent de faim. Aujourd'hui comme toujours, le vrai problème, ce n'est pas l'épidémie, ce n'est pas les catastrophes naturelles, mais bien le fait qu'on accorde plus d'importance à certaines vies qu'à d'autres. Et ça, ce n'est pas une fatalité.
On enchaîne tout de suite avec les incendies à Tchernobyl.
La question des dangers liés au nucléaire a été réactualisée de manière préoccupante autour de la centrale de Tchernobyl, où des centaines de feux se sont déclarés. En effet, l'incendie a été repéré le 4 avril dans la zone de Peleskoï, située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la centrale nucléaire. Elle est vite devenue un vrai brasier qui se propage rapidement dans la zone d'exclusion. La zone d'exclusion, c'est la zone d'une trentaine de kilomètres autour de la centrale, où le taux de radiation a été multiplié par 16. Mardi dernier, l'incendie était encore à quelques centaines de mètres de la centrale, de quoi faire flipper pas mal de monde. En pleine période de confinement, donc, le feu menaçait le combustible nucléaire irradié depuis la catastrophe de 1986, mais menaçait aussi la centrale nucléaire de Tchernobyl elle-même, ainsi que les stocks de déchets radioactifs qui ont été enfouis dans des milliers de tranchées autour de la centrale, dont une partie n'a d'ailleurs jamais été recensée. Bref, de quoi inquiéter au moins les 400 pompiers mobilisés sur place et les habitants des alentours. L'accident révèle également une gestion douteuse de l'après-catastrophe de 1986. Et malgré les tentatives de minimisation des risques de la part de l'agence d'État en charge de la gestion de la zone interdite, les incendies posent pas mal de questions en matière de sûreté nucléaire, c'est moins qu'on puisse dire. Les incendies pourraient en effet mettre à mal le réacteur accidenté depuis la catastrophe, qui est le réacteur numéro 4, dont le dôme qui l'entoure a été réalisé par un consortium industriel, Novarca, qui associe les groupes Bouygues et Vinci. Or, c'est quoi le problème? C'est que ce dôme, qui recouvre donc un sarcophage, une sorte de pansement autour du réacteur, il a été mis en place non seulement avec 4 ans de retard, mais aussi sans prendre en compte sa capacité de résistance au feu et aux incendies, puisqu'il ne supporterait des températures n'allant que jusqu'à 45 degrés. C'est quand même problématique quant à des énormes foyers juste à moins de 100 mètres. Alors que l'incendie était quasiment maîtrisé mercredi, la situation a réempiré samedi, puisque de violents vents ont rallumé certains foyers, dont un qui est à moins de 2 km de la centrale, tout en diffusant, autre problème, les cendres issues de la combustion des arbres contaminés sur les villes alentour. Bref, les conséquences sont donc plus qu'inquiétantes, notamment dans la ville de Kiev, qui est située à 100 km au sud de Tchernobyl. Quand on sait que les autorités ukrainiennes n'ont pas de balise de contrôle de radioactivité dans les villes à proximité de la centrale, on peut quand même légitimement se poser un certain nombre de questions. Par exemple, quel impact radiologique sur les pompiers? Quel impact radiologique sur les riverains? Mais aussi, quelle sûreté pour les installations nucléaires et les entrepôts de déchets réellement mis en place? Et enfin, quels moyens de gestion des incendies pour ces incendies ont été mis en place quand on sait que les incendies sont voués à se multiplier avec le réchauffement des différentes saisons? Du côté de la France, les mesures qui ont été effectuées par les balises d'alerte situées dans la vallée du Rhône, qui sont exploitées par la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, montrent que si des masses d'air en provenance de Tchernobyl ont pu atteindre le territoire français en début de semaine, les niveaux de contamination restent quand même très faibles.
On continue à l'international avec une interview qui nous vient de Colombie.
On va discuter avec Janet, militante pour les droits des femmes qui vivent avec le VIH dans des contextes de précarité en Colombie, où la quarantaine a été mise en place le 25 mars et devrait se terminer le 27 avril. Elle est fondatrice de l'association Lila Mujer et nous allons nous concentrer sur les problématiques des femmes qui vivent avec le VIH en Colombie dans le cadre de l'épidémie du COVID.
Hola Janet, ¿cómo estás? Je suis inquiète par la situation actuelle. Je ne peux pas dire que ça va bien parce qu'il y a une grande quantité de situations. Lila Mujer est une organisation de base communautaire de femmes qui vivent avec le VIH et nous sommes dans le sud-occident colombien. L'idée est de renforcer les femmes, leur projet de vie en tant qu'être humain et de manière autonome.
Y que se fortalezcan como seres humanos y seres independientes.
Sur la question du COVID pour les femmes qui avant le VIH en contexte de pauvreté, c'est une situation très complexe. Parce que déjà, il y a le VIH, il y a le fait d'être femme, d'être noire et pauvre. Et maintenant, il y a le COVID-19. Et la violence de genre qui ne cesse d'augmenter. Mais cette crise affecte surtout les personnes qui n'ont pas les ressources suffisantes. Leur situation économique est très difficile. Nous, on dit que c'est la pandémie du désamour. Car si avant, on nous discriminait parce qu'on avait le VIH, aujourd'hui, c'est une situation beaucoup plus complexe. Nous sommes en train de prendre en charge cette situation en agissant sur les questions de sécurité alimentaire pour ces femmes. Parce que l'action du gouvernement est terrible. Les organisations de base ont apporté plus de solutions que le gouvernement avec des réseaux d'amis qui, je l'espère, ne vont pas se fatiguer d'aider. On espère que les aides alimentaires vont continuer à arriver pour que les personnes puissent se nourrir. Nous sommes aussi très inquiets parce qu'il y a des problématiques pour que les femmes avec le VIH se fassent livrer leurs médicaments. Même moi, qui suis un leader communautaire, je n'ai pas reçu mes médicaments. Donc, vous pouvez imaginer la situation d'une femme qui n'a pas les outils que j'ai pour faire respecter ses droits. Nous avons aussi décidé de créer un groupe d'autosoutien, COVID-19 et VIH. Et de faire une sensibilisation des travailleurs sociaux et des psychologues qui nous entourent pour qu'elles puissent aider les femmes. Tu sais que la Colombie est un pays très machiste. Les féminicides ont beaucoup augmenté et Cali est une des villes avec un taux important de féminicides en Colombie. Une des villes où il y a le plus d'infections du Covid. Dans les quartiers populaires, le taux d'infection est très important. Les quartiers comme Manuela Beltrán, la Comuna 14, ce sont les quartiers les plus affectés par le Covid. Les personnes de ces quartiers sortent par besoin économique. Ils n'ont pas de carte de crédit pour acheter ou c'est impossible de se faire livrer. Nous sommes aussi 99,9% de personnes qui travaillent dans l'informalité. Moi, je travaille avec de la vente de nourriture et ce que j'avais épargné, je suis en train de le dépenser. Il y a trop d'incertitudes. Les femmes te cherchent pour avoir de l'aide, mais moi aussi, je ne suis pas bien. C'est très difficile, cette situation d'enfermement. Les conditions dans lesquelles vivent les femmes dans des petites maisons, la situation des migrantes vénézuéliennes qui n'ont pas encore d'accès à la santé et qui ne reçoivent pas d'aide de l'État. Il y a tellement de choses qu'on ne sait même pas par où il faut commencer pour aider. Déjà, avec un cas de violence que je gère en ce moment, c'est très difficile. C'est une fille de 17 ans avec 3 enfants qui a le VIH. Et je sens que je suis au bout. Je sais que ça ne va pas s'arrêter le 27 avril à la sortie du confinement. Cette situation va être très longue et nous qui vivons avec le VIH, on ne peut pas sortir immédiatement. On n'a déjà pas les moyens pour se nourrir parce qu'on nous dit qu'il faut bien se manger, mais on n'a même pas les moyens. Mais nous sommes en train de nous organiser sur cette question pour avoir les médicaments, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas payer le loyer et les services. On essaie de s'organiser, de suivre les familles pour leur envoyer des aliments, du lait, du savon, du papier toilette, des œufs. S'il y a 8 personnes, on amène pour 8 personnes et pour 15 jours.
Asimismo, llevarle la cantidad de alimentos, y no solo grano, sino todo, leche,
el jabón para que se bañen, papel higiénico, huevos, lo que más se pueda. Se llega un mercado para 15 días para 8 personas. Esta voz.
Merci, je suis contente que cette voix va être écoutée ailleurs. Et même si j'ai les larmes aux yeux, je suis très contente et il faut continuer.
Et on parle tout de suite des émeutes de la faim en Afrique du Sud.
Si elle avait jusqu'à récemment échappé à la vague épidémique, l'Afrique commence à être elle aussi sérieusement impactée par le Covid-19. Plusieurs pays ont déjà mis en place des mesures de confinement, mais la peur d'une explosion sociale hante tous les appareils d'État africains. En effet, les mesures de confinement semblent impossibles à appliquer. La pauvreté est trop forte et les États trop faibles et désorganisés sont totalement incapables de subvenir aux besoins de leur population. Et c'est en Afrique du Sud que la situation est actuellement la plus tendue. Ce pays, temple du capitalisme sauvage et des extrêmes inégalités sociales et raciales, a mis en place des mesures de confinement aux grandes dames de la population noire des townships. Tandis que les quartiers bourgeois et blancs bénéficient de cliniques privées, avec une infrastructure ultra-moderne et assez de soignants pour gérer le flux des patients, les quartiers pauvres sont livrés à eux-mêmes. Sans salaire ni aide telles que des allocations chômage, la majorité ne compte actuellement que sur des colis alimentaires du gouvernement qui sont leur seule source de nourriture. Cependant, les livraisons sont irrégulières et aléatoires, ce qui condamne des millions de Sud-Africains à une faim permanente. On préfère mourir du coronavirus que de mourir de faim dans nos maisons. Cette phrase, prononcée par une habitante du Cap à l'AFP, résume parfaitement la situation. De nombreuses émeutes et pillages ont éclaté dans les quartiers les plus pauvres, la seule réponse du gouvernement étant la féroce répression dont la police sud-africaine est coutumière. On a ainsi pu voir des policiers pointer des fusils à pompe sur des personnes faisant la queue devant un supermarché pour qu'elles respectent les distances de sécurité. La crise sanitaire accentue les inégalités d'accès à la nourriture partout dans le monde, alors que certains pays du Nord détruisent des denrées alimentaires plus assez rentables sur le marché capitaliste. À l'inverse du fantasme de certains, pour beaucoup de personnes dans le monde, le confinement n'est pas le moment de revenir à l'essentiel ou une pause, mais l'expérience encore plus accrue de la violence du système capitaliste.
On fait maintenant une petite pause musicale pour écouter La Canción Sin Miedo, la chanson sans peur de la chanteuse mexicaine Vivir Quintana, accompagnée par la chorale El Palomar. Cette version a été mise en ligne le 7 mars 2020, juste avant la journée de lutte internationale pour les droits des femmes, et beaucoup partagée sur les réseaux sociaux depuis.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa.
Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las
muertos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Vous venez d'écouter Canción sin miedo de Vivir Quintana et El Palmolar. On passe tout de suite au national avec des nouvelles des révoltes dans les CRA.
Oui, on continue et on parle, une fois n'est pas coutume, des centres de rétention administrative, puisque certains sont toujours ouverts et retiennent enfermés jusqu'à plusieurs dizaines de sans-papiers. Et ce, alors même que des cas de Covid-19 sont avérés, que les mesures de protection sont bien souvent inexistantes et que les flics, qui sont les matons des centres de rétention, continuent de maltraiter les prisonniers. Rappelons que les frontières sont fermées, il ne peut pas y avoir d'expulsion. Pourquoi donc les maintenir enfermés, si ce n'est pour le plaisir des flics de Nicole Belloubet ou de Christophe Castaner ? Il y a d'ailleurs aujourd'hui toujours des entrants, ce sont ceux qui sortent de prison, c'est la double peine. Selon la CIMAD, il y aurait 180 prisonniers dans les CRA aujourd'hui. Alors, trois centres de rétention administrative ont vu des révoltes de sans-papiers à l'intérieur. D'abord, Vincennes. 4 cas de coronavirus ont été déclarés sur 54 prisonniers environ. Le tribunal administratif de Paris a décidé mercredi, pour cette raison, qu'il n'y aurait pas de nouveaux entrants pendant 14 jours, une sorte donc de mise en quarantaine, mais il acte le maintien en rétention pour les autres. Aucune mesure particulière n'a été prise. Des prisonniers se sont donc révoltés la semaine dernière, le 12 avril, pour exiger l'hospitalisation d'un des leurs, particulièrement malade et ayant les symptômes du coronavirus. Ils ont dû mettre le feu à une cellule et ont refusé de partir de la cour de promenade pour que le malade soit pris en charge. La folie. La direction leur a ensuite promis les tests pour tous. Ils les attendent toujours. La veille, le 11 avril, au Ménilamlo, suite à une assemblée générale improvisée dans la cour de promenade, une cinquantaine de retenus des différents bâtiments ont dormi dans la cour de promenade pour dénoncer les conditions sanitaires inacceptables. Aucune des entrées et sorties, y compris celle des flics, n'est soumise au dépistage. Ils ne peuvent plus dormir ni prendre de douche depuis plusieurs jours, puisque c'est trop sale et ça pue, disent-ils. D'ailleurs, qu'a fait la police quand ces derniers ont sorti les matelas pour dormir dans la cour de promenade ? Eh bien, elle leur a tout simplement enlevé les matelas et les a laissés dormir par terre. Le lendemain matin, donc, le dimanche, la majorité des prisonniers ont sauté les barrières les séparant du bâtiment où sont enfermées les femmes. La riposte a été immédiate. Intervention des CRS, hein, facile. La caserne est collée au centre de rétention. Une partie des prisonniers se sont fait littéralement tabasser pendant qu'une fouille générale des bâtiments était effectuée avant de ramener par la force tout le monde en cellule. Tout le monde ? Non. 8 prisonniers considérés comme les meneurs ont été placés en garde à vue puis transférés dans d'autres centres de rétention. 5 à l'Esquin près de Lille, isolés des autres prisonniers et 3 à Oissel. Alors on va parler aussi un petit peu de Oissel puisque à Oissel, le CRA, ce CRA qui est isolé dans une école de flics à 20 km de Rouen, eh bien, les prisonniers racontent d'ailleurs régulièrement que c'est l'un des pires centres de rétention pour les violences des flics et le peu d'aide que fournit l'association humanitaire censée faire du soutien juridique France Terre d'Asile. Le 12 avril, les 16 prisonniers retenus ont entamé une grève de la faim dès lors qu'ils ont appris ce qui s'était passé au Ménilamlo, donc en solidarité, et bien sûr pour dénoncer leurs conditions de rétention et exiger leur libération immédiate. Comme ailleurs, il n'y a pas de protection, ils ont à peine de quoi se désinfecter les mains, les cellules ne sont même pas nettoyées. Immédiatement après leur arrivée au CRA de Oissel, d'ailleurs, les 3 du Ménil ont rejoint la grève de la faim. À la fin de la semaine dernière, certains continuaient, mais la direction, elle, n'a évidemment rien changé. On réitère ici l'appel qu'on a fait il y a 15 jours. Harceler les préfectures, envoyez-leur des mails. Si vous voulez avoir des informations là-dessus, vous allez sur le site abalekra.noblog.org et vous pourrez aussi voir les témoignages des prisonniers du CRA du Ménilamlo qui se sont fait tabasser par les flics.
Et on lit tout de suite une lettre de réfugiés érythréens qui sont à Calais.
On va maintenant parler un petit peu de ce qui se passe à Calais. On avait déjà parlé, hein, l'État a commencé le 4 avril une opération d'évacuation du campement en temps de confinement, soi-disant pour mettre à l'abri les personnes et les protéger. Mais non seulement il n'y a pas du tout assez de places prévues pour accueillir les plus de 1000 personnes qui sont en ce moment sur le camp de Calais, mais en plus de ça, ça donne lieu à une série de violences policières. On va maintenant lire une lettre ouverte qui a été rédigée par des érythréens, des réfugiés érythréens du camp, qui témoignent de ces violences policières. Donc, lettre ouverte des réfugiés érythréens de Calais. Je commence. Avant de commencer à écrire notre plainte concernant les événements suivants impliquant des CRS, nous souhaitons dire quelques mots à propos de nous-mêmes. Nous sommes des exilés venant d'Érythrée. Nous sommes ici pour la simple raison de vouloir vivre notre vie en sécurité et avoir un futur. Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes des migrants. Nous sommes des innocents qui essayons d'aller en Angleterre. Notre plainte concerne une compagnie de CRS et leurs actions impulsives et agressives à notre égard. Ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Ils nous insultent de noms tels que monkey, bitch, etc. Et depuis quelques semaines, ils ont commencé à menacer nos vies et nous battent dès que l'occasion se présente à eux. Lorsque, par exemple, ils trouvent un groupe de 2 ou 3 personnes marchant vers la distribution de nourriture ou dans nos tentes lorsque nous dormons. Ils accélèrent dans leur véhicule en roulant dans notre direction comme s'ils voulaient nous écraser. Ils ont également emmené des gens avec eux dans des endroits éloignés de Calais et les ont frappés jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Ils cachent leur code personnel, numéro RIO, lorsqu'ils commettent ces actions illégales envers nous. Lorsqu'ils se rendent compte que nous filmons, ils s'attaquent à nous et cassent nos téléphones. Voici une liste de tous les actes violents auxquels nous avons été soumis récemment. Tous ces événements ont eu lieu à Calais et ont été commis par des agents CRS. 26 mars 2020, 15h30, une personne a été gazée et frappée par les CRS après s'être vue refuser l'entrée du supermarché Carrefour. 27 mars, 14h, 2 personnes qui marchaient près du stade de l'Épopée pour se rendre à la distribution de nourriture ont été passées à tabac par les CRS. L'une des victimes a eu le bras cassé suite à cette agression. 27 mars, 2 personnes qui marchaient près du stade de BMX pour aller à la distribution de nourriture ont été frappées et gazées par les CRS, compagnie 8. 28 mars, une personne qui marchait dans la rue Mollian a été jetée au sol et passée à tabac. 28 mars, 2 personnes marchant près du stade pour aller à la distribution de nourriture ont été frappées et gazées par les CRS. 28 mars, 15h30, une personne qui marchait seule, qui est Lucien Lheureux, et se rendant à son campement, a été passée à tabac et frappée à l'arrière de la tête avec une matraque télescopique. 28 mars, 4 personnes qui marchaient près du stade ont été passées à tabac par les CRS à l'aide de matraques télescopiques. 31 mars, midi 50, 2 personnes sorties d'un camion ont été passées à tabac rue des Sablières. Une personne se plaignait d'une douleur importante au bras, la deuxième a été laissée quasiment inconsciente et a dû être évacuée vers l'hôpital en ambulance, compagnie 8. Signé la communauté des réfugiés érythréens de Calais, le 14 avril 2020. Si à Calais il faut de l'air pour ouvrir les frontières, on peut dire que les patrons de la dernière usine de bouteilles d'oxygène en Europe, eux, par contre, ne manquent pas d'air.
Alors, on a assez critiqué le choix de la France de compter sur l'importation de masques en cas de crise, et en réponse, le gouvernement parle maintenant de devenir autonome dans la production de ces masques. Il paraîtrait aussi que la priorité n'est plus au profit en matière de santé. Alors, qu'en est-il maintenant de la dernière usine de bouteilles d'oxygène d'Europe qui a fermé en mai 2019 ? Alors que l'Italie en connaît déjà une pénurie. C'était il y a donc un an, l'usine Luxfer de Gerza, à côté de Clermont-Ferrand, fermait ses portes. Le site était pourtant largement bénéficiaire, 22 millions de chiffre d'affaires et un bénéfice d'€1 million en 2018, soit 55% de progression par rapport à l'année précédente. Il s'agit donc d'une décision purement stratégique et loin d'être nécessaire à la survie de l'entreprise. Les anciens employés de l'usine ont d'abord cherché des repreneurs, puis eux-mêmes proposé de racheter le site et de reprendre l'usine sous la forme d'une SCOP. Ce que Luxfer a refusé. Fin janvier de cette année, Luxfer commence même à détruire le matériel sur place. Les anciens employés réagissent en occupant l'usine pour empêcher la destruction des machines et l'ont occupée sans interruption pendant 53 jours, occupation qu'ils ont levée seulement lors du confinement. Depuis leur première lutte, ils ont maintenant la revendication d'être nationalisés. Pas de n'importe quelle façon, ils le précisent, une nationalisation de l'usine et de ses bénéfices, c'est-à-dire une nationalisation définitive et non pas une nationalisation lors de la relance de l'usine pour ensuite revendre et en privatiser les bénéfices lorsque l'usine devient bénéficiaire. Jusqu'à présent, le ministre de l'économie a argué que de toute façon, Luxfer refuse de vendre et s'est caché derrière le droit à la propriété. Et c'est vrai, Luxfer refuse de vendre. Il n'a d'ailleurs même pas daigné étudier le plan de SCOP proposé par ses anciens salariés. Pourquoi donc ? Eh bien, c'est lié au choix d'avoir fermé ce site, pourtant largement bénéficiaire, qui n'a d'ailleurs pas été délocalisé. L'usine a simplement fermé. L'entreprise ne s'est jamais expliquée sur ce choix, mais le délégué CGT de l'usine explique que leur site proposait des bouteilles dans un alliage très léger et très solide, dite bouteille de type 3, et qui est à l'heure actuelle le plus haut niveau de qualité en bouteille d'oxygène. D'ailleurs, je devrais en parler au passé, puisque maintenant ce type de bouteille n'est plus produit nulle part dans le monde. Ce qui permet de vendre des bouteilles de moins bonne qualité à un prix plus élevé. Et il a été constaté une hausse de 12% du prix de ces bouteilles en juin 2019. D'autant plus que Luxfer a aujourd'hui une situation de quasi-monopole dans le secteur, puisqu'il produit 70% des bouteilles dans le monde. Donc pas question pour lui de céder le site à quelqu'un qui reprendrait cette production. D'autres informations qui pourraient éclairer sur les choix de l'entreprise, elle fait partie du groupe Luxfer Holding PLC, détenu par des fonds de pension tels que le bien connu BlackRock. Les actions de Luxfer se portent bien. Entre le 12 mars et le 13 avril, elles ont augmenté de 30%, et même de 20% pour la seule journée du 17 mars, premier jour de confinement en France. Comme quoi, monsieur Macron, il y a des gens qui se font de l'argent sur la santé. Alors une bouteille d'oxygène, ça a une durée de vie bien plus longue qu'un masque jetable. On peut la réutiliser, la re-remplir. En France, c'est Air Liquide, l'entreprise qui s'en occupe, et elle déclare ne pouvoir se fournir que chez Luxfer, ou une entreprise taïwanaise, ou une entreprise turque. Sur le long terme, cette situation va évidemment se faire sentir sur le prix des bouteilles, et il est grand temps d'en finir avec le capitalisme qui ne pense qu'en termes de profit, jusqu'à limiter l'accès à des biens de santé, et où il est plus logique de détruire pour des millions d'euros de machines plutôt qu'elles servent aux biens communs.
Et pendant ce temps-là, le gouvernement continue ses beaux cadeaux aux entreprises.
Ouais, alors on l'avait vu la semaine dernière, hein, l'Union européenne va emprunter 500 milliards d'euros au marché financier via des organismes européens qui auront la responsabilité de faire appliquer des politiques d'austérité considérables pour les pays les plus touchés par la crise. Donc là, c'était le versant Europe, comme après 2008, mais en probablement bien pire. Et comme après 2008, eh bien, les États vont massivement transférer la dette privée vers la dette publique pour les beaux yeux des banques et des actionnaires des grandes entreprises. C'est pourquoi la France a donc décidé de débloquer 100 milliards d'euros pour le patronat au lieu des 45 milliards initialement prévus via un deuxième projet de loi de finances rectificative. La préoccupation du gouvernement, sans surprise aucune, hein, reste de donner l'ensemble des garanties au grand patronat et toujours rien ou presque pour les travailleurs et les travailleuses et les plus précaires. Sur ces 100 milliards d'euros, 20 milliards vont être provisionnés pour le recours au chômage partiel. Alors pour rappel, ceci n'est pas une mesure en faveur des salariés, hein, mais bien en faveur des patrons. Les salariés ne touchent ou ne toucheront que 84% de leur salaire net, pendant que les patrons ne paieront rien puisque tout sera pris en charge par les administrations publiques dans la limite de l'équivalent de 4,5 SMIC. Le plus fou là-dedans, c'est que même les entreprises du CAC 40 vont bénéficier, alors que ces dernières ont fait péter les scores en 2019 avec 60 milliards d'euros de liquidités filées aux actionnaires, le record de 2007 piétiné, et ça représente plus 12% par rapport à 2018. Donc, 20 autres milliards d'argent public vont aller dans les caisses d'entreprises stratégiques dans un but de recapitalisation, comme Air France ou KLM, une aide directe donc pour les grands capitalistes. Tout cet argent, bien sûr, sans demander aucune garantie de maintien des emplois ni des salaires, comme après 2008 toujours donc, sous couvert de plans d'aide pour le maintien de l'emploi. Ce qui va se passer, ce sont des licenciements en pagaille dans le secteur privé et dans les grandes entreprises, qui vont ainsi, grâce à l'État, pouvoir faire repartir en flèche la courbe du taux de profit, tout en envoyant dans la précarité des dizaines de milliers de travailleurs et de travailleuses. Ah oui, le gouvernement annonce également la possibilité d'annuler les créances de cotisations sociales de certaines entreprises en difficulté, ce qui signifie qu'un certain nombre d'entreprises ne payent pas leurs cotisations sociales, qui sont patronales donc. C'est quand même marrant, puisque nous, c'est immédiatement ponctionné sur notre salaire. Hein, on n'a pas le choix. Les patrons, eux, peuvent ne pas les payer et même s'en faire exonérer en toute légalité. Enfin voilà, rien de neuf sous le soleil. On prend les mêmes et on recommence. C'est encore les exploités qui vont payer la crise, sauf si... Dès qu'on peut, on s'organise, on décide de lutter, si possible, en dehors des cadres traditionnels. Il va bien falloir que la peur change de camp.
Et oui, pendant que l'État fait des cadeaux de millions d'euros à certaines grandes entreprises, que l'action d'Amazon a augmenté de 20% depuis le début de la pandémie, ce qui fait un gain de pas moins de 24 milliards d'euros pour Jeff Bezos, le patron d'Amazon. C'est toujours bien la galère pour les indépendants. J'ai eu l'occasion de faire un reportage de l'extrême à un camion pizza. On écoute tout de suite ce témoignage. Alors déjà, est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe pour toi depuis le début du confinement ?
Le fait qu'il y ait eu le confinement, j'ai arrêté 3 semaines au départ. Voilà, histoire de voir que j'ai rien. Et après, j'ai décidé de rattaquer.
Et du coup, là, tu as des pertes importantes au niveau de ton chiffre d'affaires ?
Oh, énorme. C'est plus une perte de chiffre d'affaires, c'est un gouffre en fait. Non, on y vient plus pour sauver les meubles en fait. Voilà, c'est sauver les meubles et il va falloir faire autre chose à côté pour s'en sortir. Parce que l'État, nada.
Alors, au niveau des dispositifs de l'État, est-ce qu'il y en a qui correspondent à ton activité ?
C'est du néant. Ça existe pour les salariés, ça existe pour certains indépendants peut-être. Mais bon, suivant la taille de l'entreprise, ça ne fonctionne pas, quoi, du tout. Donc là, moi, pour le moment, pour bouffer, j'ai ce que j'avais mis de côté et ce que je bosse là. Voilà, donc autant dire, c'est juste.
Et du coup, tu fais comment pour t'en sortir concrètement ?
Je supprime maximum les pertes déjà. Voilà, donc toutes les pizzas qui se vendent ou moins bien ou qui coûtent trop cher et avec trop de pertes, je les supprime. Et après, j'ai fait un joli jardin, très joli jardin. Voilà. Et puis après, je vais essayer de trouver un boulot à côté. Voilà.
Merci beaucoup et puis à très vite.
On enchaîne avec un sujet sur la suspension d'un inspecteur de travail.
Oui. Grosse entrave au droit du travail. Les syndicats Sud, CGT, FSU et CNT de l'inspection du travail alertent sur le fait que de nombreux inspecteurs du travail subissent des pressions de leur propre hiérarchie pour ne pas se rendre sur des sites d'entreprise. La direction du travail interdit depuis le début de la crise du Covid-19 les contrôles inopinés, c'est-à-dire les seuls contrôles qui servent à quelque chose. Officiellement pour protéger les inspecteurs. Concrètement, cela participe au fait que les profits passent avant la sécurité des travailleurs. C'est pas nouveau, mais c'est encore plus le cas en ce moment. Mercredi dernier, un inspecteur du travail de la Marne a même été mis à pied pour avoir saisi le juge des référés contre une entreprise d'aide à domicile. La direction du travail argumente qu'il aurait, je cite, « de manière délibérée, grave et répétée, contrevenu aux nouvelles procédures ». Ces nouvelles procédures, ce sont donc celles qui demandent aux inspecteurs d'être tolérants envers les patrons. Pour le cas de l'entreprise d'aide à domicile, on lui reproche d'avoir recommandé le port de masques FFP2. Alors certes, la France connaît une pénurie de ces masques, mais ce n'est pas aux travailleurs d'en payer le prix par leur santé. Et pour l'entreprise concernée, il n'y avait rien d'autre, ni charlotte, ni surblouse, ni gants, ni gel hydroalcoolique. Pour ces deux derniers, il semble que l'entreprise ait récemment fini par en distribuer aux employés. Dans le cas du travail à domicile, c'est quand même à la fois la santé des travailleurs et celle des clients, souvent des personnes âgées, qui est en jeu. Une plainte a été envoyée à l'Organisation internationale du travail, dont les textes doivent normalement primer sur la législation française. L'Organisation internationale du travail a d'ailleurs déjà précisé que les nouvelles directives ne doivent pas porter préjudice à l'autorité ou à l'impartialité nécessaire aux inspecteurs. Là, c'est clairement le cas, et quand on voit ce que se permet le gouvernement, on a de quoi s'inquiéter pour les jours à venir.
On poursuit sur le grand n'importe quoi, mais cette fois-ci en parlant des écoles.
S'il est un sujet emblématique de l'incompétence gouvernementale dans la crise aux côtés de la gestion des masques, c'est bien l'école. Déjà en mars dernier, Blanquer, ministre de l'Éducation, s'était ridiculisé en annonçant qu'il n'était pas question de fermer les écoles avant d'être contredit par Macron le soir même lors de son annonce télévisée. Fonctionnement symptomatique du pouvoir macroniste, le souverain tranche seul, sans prévenir personne, interloque jusqu'à ses ministres qui découvrent avec nous les mesures à prendre. Conséquence, un foutoir pas possible et des changements de stratégie constants de la girouette Macron. Même scénario ce 13 mars, quand Macron a annoncé la réouverture des écoles le 11 mai. Le lendemain, on retrouve un Blanquer sur les plateaux télé, dépourvu et obligé de nuancer la décision en annonçant que la reprise ne serait pas obligatoire et se ferait de façon progressive. L'impréparation est totale puisque absolument rien n'est fixé sur la manière dont cette réouverture se déroulerait. Flou total sur les masques, pas de règles fixées sur la distanciation sociale entre élèves, et surtout, rien de fixé et de concret sur de potentiels tests, si ce n'est qu'il ne serait pas possible d'en faire tous les jours. En plus d'être non préparé, la décision de rouvrir les écoles est aberrante et a été justement dénoncée par l'Ordre des médecins. Les enfants sont un des principaux vecteurs de propagation du virus car étant asymptomatiques. Donc rouvrir les écoles, c'est risquer de remettre le virus en circulation. C'est d'autant plus aberrant, alors que cela a été une des premières mesures de lutte contre l'épidémie, que de fermer les écoles. Donc le retour à l'école n'étant pas obligatoire, on voit bien la réalité de ce revirement stratégique, permettre aux parents de retourner au travail. Encore une fois, les profs vont devoir jouer les larbins du gouvernement et se mettre en danger en faisant garderie afin d'assurer les profits des membres du MEDEF.
On enchaîne avec un sujet sur les exactions policières.
Oui, les flics sont définitivement en roue libre. On compte déjà 3 morts suite à des contrôles et les violences ne s'arrêtent pas. Habituellement, on dénombre entre 10 et 15 meurtres de la police par an, soit environ un par mois. Les chiffres explosent. Les témoignages de violences et humiliations, particulièrement dans les quartiers populaires, sont extrêmement nombreux depuis le début du confinement. Rien d'étonnant au regard de la sémantique guerrière choisie par Macron lors de la mise en place du confinement. En temps de guerre, les exactions policières sont légitimées par le pouvoir, encore plus que d'ordinaire. Pour les flics et les militaires, c'est donc un blanc-seing comme ils en ont probablement toujours rêvé. Et ça ouvre la porte à des comportements parfaitement scandaleux. Samedi, un flic a quasiment amputé un jeune en moto. La tentative d'homicide aurait eu lieu à la suite d'une course-poursuite après un refus d'obtempérer. Bon, les circonstances réelles semblent bien troubles puisque le flic, à bord d'une voiture banalisée, a en fait ouvert sa portière pour arrêter la moto qui roulait à vive allure. Le motard a donc fait une chute de plusieurs mètres plus loin, qui aurait pu être fatale. Il a une fracture ouverte à la jambe particulièrement impressionnante. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où on peut l'entendre hurler de douleur. Bon, on rappelle à toutes fins utiles qu'une circulaire déconseille les courses-poursuites au keuf, puisqu'elle risque de mettre en danger des vies. Mais visiblement, pour les flics, toutes les vies ne se valent pas. Mardi 14 avril, c'est un flic qui n'était pas en service qui a tiré sur son voisin au prétexte qu'il était trop bruyant. Probablement convaincu de son impunité, il a lui-même publié des photos de sa tentative d'homicide sur Snapchat. Alors sur les photos, on le voit d'abord, arme glissée dans le pantalon, avec ce message... Je me rends chez mon voisin d'en dessous qui fait du tapage. Il m'invite à descendre, sale fils de pute, j'y vais. Quelques minutes plus tard, il publie de nouveau une photo montrant cette fois-ci des taches de sang sur le sol, accompagnée du message « J'ai tiré ». Ce qu'il ne précise pas, c'est qu'il lui a tiré dans l'abdomen, avec donc la ferme intention de le tuer. Alors, l'avocat du flic déclare « Cela n'a rien à voir avec son état d'esprit habituel, c'est quelqu'un de très calme, très professionnel et très bien noté ». En fait, rien d'étonnant, ce sentiment d'impunité et de droit de vie et de mort, c'est bien le résultat d'une impunité réelle de la police. Une fois de plus, l'autorisation pour les keufs de garder leurs armes en dehors de leur service a fait un mort. On rappelle que depuis l'adoption en 2016 de cette loi, de nombreuses victimes sont à déplorer. Alors, désarmons-les au plus vite et surtout... Nous, on n'oubliera pas, on pardonnera pas.
Toujours national, un sujet sur les étudiants infirmiers mis à disposition pour 1 euro de l'heure.
Depuis le début de la crise du Covid-19, des milliers d'étudiants infirmiers ont été appelés en renfort dans les hôpitaux, notamment dans les régions les plus touchées. En Île-de-France, depuis mars, ça représente environ 15 000 étudiants infirmiers. Ils sont envoyés dans les hôpitaux en tant que stagiaires, où ils se retrouvent en fait à effectuer un taf à temps plein d'aide-soignant ou d'agent de service hospitalier, avec peu ou pas d'encadrement pédagogique. En somme, du salariat de renfort qui, au lieu d'être payé à prix coûtant par l'État, est rémunéré pour la modique somme de 28 euros par semaine pour les étudiants en première année de formation, 38 euros par semaine pour les étudiants en deuxième année et 50 euros par semaine pour les étudiants en troisième année, environ 1,42 euros de l'heure. Non seulement la rémunération n'est pas à la hauteur, mais en plus ces réquisitions semblent avoir été faites au mépris de la lutte contre la propagation du virus, et de la santé physique et psychologique de ses étudiants, surtout au début de la crise. Une étudiante en troisième année témoigne ainsi dans un article de Mediapart que les 15 premiers jours, aucune vérification n'était faite des antécédents médicaux ou des pathologies chroniques des étudiants recrutés. Un représentant de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers explique que l'entretien des tenues professionnelles, qui est pris en charge pour les professionnels, ne l'est pas pour les étudiants, qui doivent ramener leurs tenues de travail chez eux pour les laver. Il parle aussi des dépistages du virus, qui sont presque systématiques pour tout professionnel présentant des symptômes, mais pas pour les étudiants. Au début du mois d'avril, les organisations syndicales et les fédérations professionnelles ont protesté et réclamé plus de reconnaissance, notamment financière, pour ces étudiants. En réponse, certaines régions comme l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Bourgogne, la Corse, le Sud et le Grand Est ont annoncé débloquer des fonds pour financer des primes entre 1 000 et 1 400 euros à destination de ces étudiants. Mais certaines régions n'ont encore rien annoncé. La Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers réclame une uniformisation de la mesure sur tout le territoire.
Passons maintenant au local, en commençant par la demande de régularisation de tous les sans-papiers présents sur le territoire.
Dans une tribune publiée dans Libération le 10 avril, le collectif du Collège sans frontières Maurice Sève demande la régularisation des migrants présents sur le sol français et européen. On va vous lire quelques extraits de cette tribune que vous trouverez facilement en ligne. Aujourd'hui, environ 500 000 personnes sans papiers sont présentes sur le sol français. Elles sont environ 4 millions sur le territoire de l'Union européenne, vivant souvent dans des conditions précaires inadmissibles et rendant impossible le respect des mesures préconisées par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre la diffusion du coronavirus. Le Portugal a décidé d'accorder un titre de séjour temporaire jusqu'au 30 juin aux migrants et migrantes présentes sur son territoire. Une vingtaine de députés français demandent également la régularisation temporaire des sans-papiers présents sur le territoire français pendant l'épidémie de coronavirus. Si cette mesure permettra à certaines personnes sans-papiers d'améliorer provisoirement leur situation, elle ne doit pas se faire au détriment de conditions de travail dignes et sécurisées. Nous demandons pour tous les travailleurs et travailleuses l'application du Code du travail en y ajoutant les mesures prescrites par l'OMS. Nous soulevons la question éthique posée par l'embauche temporaire de personnes dites migrantes pour pallier la pénurie de personnel en France et la diminution de la main-d'œuvre disponible liée à la pandémie et la fermeture des frontières. Nous soutenons cette mesure provisoire minimale, mais nous appelons à aller plus loin. Pour que l'autorisation de séjour ne soit pas qu'un instrument pour déléguer le travail durant la pandémie, il faut que le temporaire devienne permanent. C'est pourquoi nous demandons qu'une carte de résident soit attribuée à toutes les personnes migrantes afin de leur permettre d'accéder à un travail et à un logement digne. Voilà, c'était un extrait de la tribune du Collège Maurice F. Sans Frontières soutenue par de nombreuses autres associations et collectifs qui demandent une carte de résident pour tous les migrants présents sur le sol français et européen.
Et pour finir au local, un sujet sur la caisse de grève de l'Assemblée Générale Féministe de Lyon.
À Lyon, se sont tenues plusieurs assemblées générales féministes depuis décembre autour des enjeux féministes dans le mouvement social contre la réforme des retraites. Dans le cadre de ces assemblées, une caisse de grève avait été mise en place pour soutenir les femmes en grève et en encourager d'autres à se mettre en grève en contournant la barrière financière que ça représente pour les femmes les plus précaires. Cette caisse de grève a été transformée en caisse de solidarité pour les femmes précaires ou en difficulté financière pendant la crise provoquée par l'épidémie et le confinement. Pour subvenir aux besoins du quotidien engendrés par cette crise, pour soutenir les personnes qui souhaitent exercer un droit de retrait ou les personnes qui souhaitent exercer un droit de grève pendant cette période et aussi par la suite. L'AG Féministe appelle donc à continuer les dons pour cette caisse de solidarité pour les femmes précaires ou en difficulté financière. Pour donner ou pour bénéficier de cette caisse de solidarité, vous pouvez contacter l'adresse mail caissefeministe@gmail.com et vous trouverez les coordonnées entières avec les numéros de téléphone sur le site rebellion.info.
Et on termine par le traditionnel
agenda.
Alors, on peut toujours pas sortir de chez nous, mais quand même un petit agenda de Radio Canu. Sous Radio Canu, tous les mardis, mercredis ou samedis matin, vous pouvez réécouter à 8h la rediffusion des Canu Info. À 9h tous les matins, on diffuse l'émission de Fréquence Paris Pluriel, L'Envolée, qui fait un point sur les prisons. Tous les soirs à 20h, on diffuse les manifs de balcon. Tous les mardis à 17h, c'est Journal Viral, un super journal de confinement et d'actu à trois voix. Le mercredi à 18h, l'émission Mayday est toujours là. Tandis que le jeudi à 20h, c'est La Petite Cuillère, l'émission anticarcérale de Radio Canu. Et les lundis à 17h, un autre journal de confinement, le carnet de bord du confinement. Les samedis soirs, c'est Boom, en direct d'une coloc ou d'une autre. Et tous les jours, toute la journée, des formats courts, des petites surprises, tranches de vie, lecture à voix haute. D'ailleurs, si vous voulez passer un message à la radio, vous pouvez appeler le répondeur de Radio Canu au 04 78 29 26 00. Les messages sont rediffusés le lendemain à 10h et à 23h. Donc rendez-vous au 04 78 29 26 00.